Matthieu, chapitre 17. Évangile de Matthieu, chapitre 17. Nous lirons, comme d'habitude, comme le dimanche passé, du premier jusqu'au huitième verset. Et puis nous prendrons les versets 14 et les suivants. Matthieu, chapitre 17. La Bible nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Alléluia. En fait, nous sommes dans la suite du thème que nous avons commencé à étudier le dimanche passé. Le thème, c'était quoi? C'était entrer dans le cercle fermé. Quelqu'un peut dire amen. Dieu nous adresse une invitation à toi et à moi d'entrer dans le cercle fermé, dans le cercle restreint. Des disciples que le Seigneur avait l'habitude d'emmener quelque part pour qu'ils soient des témoins directs des événements glorieux. J'aimerais être dans les cercles fermés du Seigneur. Jésus avait combien de disciples? Non. Au début, il en avait 70. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit, quand nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 6, qu'un jour le Seigneur est allé passer toute une nuit dans la prière pour choisir parmi les 70, pour choisir 12 auxquels il allait donner le nom d'apôtre. Alléluia. Quelqu'un me suit? Moi, je le vois dans l'évangile de Luc, comme je viens de vous le dire. La Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Mes frères et sœurs, il passa toute la nuit à prier. Jésus avait-il besoin vraiment de prier? Quel exemple pour toi et moi. Il passa toute la nuit. C'est pourquoi c'est important, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu nous adresse des saintes convocations, des nuits de prière, venons-y. Quelqu'un peut dire amen? C'est comme si vous n'étiez pas d'accord avec moi. Venons-y! Le Seigneur passait des nuits dans la prière. Alors quand l'occasion nous est donnée de passer quelques heures, quelques temps dans la prière, venons dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'en ce temps-là, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il appela ses disciples et il en choisit 12. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il en avait plusieurs. Et parmi tous ces disciples-là, il en a choisi combien? Il en a choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas, Iscariote, qui devait le trahir. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce texte. Le Seigneur passa la nuit à prier. Il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, et on nous cite les noms de ces apôtres. Je suis en train de me poser la question, comment ça se fait que nous ne connaissons que ces gens-là? Et les autres, il y en a dont nous ne connaissons même pas les noms. Parce que quelqu'un me suit. Parmi les autres là, si vous prenez 70 à peu près moins 12, il vous reste combien, mathématicien? 58. C'est-à-dire qu'il y a au moins 58 autres disciples du Seigneur dont nous ne connaissons pas les noms. Quelqu'un m'entend? Je ne voudrais pas passer ma vie à côté de Jésus sans marquer quelque part mon nom. Quelqu'un veut dire amen? Je ne voudrais pas passer ma vie quelque part à côté de Jésus avec le Seigneur, sans marquer mon nom quelque part. Ne sois pas un chrétien qui sera toujours relégué dans l'anonymat. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur a d'abord pris 12 dans un cercle un peu plus fermé. Et il cite les noms de ces 12-là. Ils sont entrés dans l'histoire quand tu quitteras cette église. Je voudrais que ton nom reste marqué avec un bon témoignage. Quand tu quitteras cette ville, même pour aller aux États-Unis, mais lorsqu'on parlera de ton nom, que ça reste un nom que l'on marque, tu as marqué par quelque chose de positif. Vous savez, il y a des gens, quand il est parti, on s'est réjoui, n'est-ce pas? Plus à Dieu que tu ne puisses pas être comme un disciple qui est dans un cercle un peu flou, aux contours qui ne sont pas bien délimités. La Bible dit, le Seigneur a passé toute la nuit dans la prière. Et quand il a fini de prier, mes frères et sœurs, vous savez, quand je suis les élections des Miss, j'ai souvent beaucoup de peines pour celles qui ne sont pas choisies. N'est-ce pas? Vous venez avec la certitude que vous allez être choisies. Quelqu'un me suit? Les unes comme les autres viennent avec le plus beau sourire. Et puis, on fait sortir des petits morceaux de carton sur lesquels on dit, Ariane, tu peux reculer. Ah, quand je la vois reculer, j'ai dit, mon Dieu, ça vous brise les cœurs, n'est-ce pas? Quand vous entendez Pauline avancer, elle s'avance. C'est comme ça que vous les voyez parfois en train de pleurer d'émotion. Je m'imagine quand le Seigneur a réuni tous ses disciples et qu'il a commencé par dire, au milieu, je vais choisir 12 pour en faire des apôtres. Vous vous imaginez comment les cœurs de chacun d'eux battaient? Alors l'autre disait, peut-être ça va être moi. Mes frères et sœurs, il y aura un jour, Dieu mettra le monde entier pour dire, toi, entre dans la joie de ton maître. Toi, recule. Plus à Dieu que ce jour-là, tu sois choisi pour entrer dans la joie du Dieu glorieux. Tu sois le choix de Dieu. Ils étaient là et le Seigneur a commencé à appeler Matthieu. Matthieu, viens. Alléluia. Cela, c'est comme si, c'est plus qu'un diplôme d'État que tu gagnes. Vous savez, quand nous étions encore à une certaine époque, les diplômes d'État, non, on les fêtait plus que les diplômes de licence. Vrai ou faux? C'était une étape importante de la vie, les diplômes d'études secondaires. Encore qu'à cette époque-là, quand quelqu'un finissait les études secondaires, c'était quelqu'un. Maintenant, ça a subi la démonétisation, la dévaluation, etc. Tout ce que vous pouvez vous imaginer. Je ne critique rien. Mais c'est un peu partout, même ici en Belgique, parfois, quand vous regardez le niveau dont les écoles aujourd'hui, ça laisse à désirer par rapport à un certain nombre d'années. Et il en choisit 12. Mais le Le Seigneur va aller beaucoup plus loin.
Je parle à quelqu'un.
Entre dans le cercle. Entre dans le cercle fermé. Et parmi les 12, c'est encore parmi les 12 que le Seigneur va choisir chaque fois, la plupart du temps, 3 pour les emmener dans un lieu où ces gens pouvaient être témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Les autres ne vivaient pas forcément les mêmes événements que ceux que vivaient les 3, que vivaient les 12. Non, 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 non! C'est pourquoi toute ta vie, il faut que tu te battes pour dire, je ne veux pas rester dans le cercle des 70. Oui, je suis disciple de Jésus-Christ, mais je voudrais rentrer dans le groupe de 12. Mais encore mieux, je voudrais rentrer dans le groupe de 3. Mais encore mieux, je voudrais rentrer dans le groupe même de celui à qui il peut dire quelque chose de particulier qui témoigne de sa confiance vis-à-vis de moi, comme il avait dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il appelle lui seul. Ça, c'est rentrer dans le cercle fermé. Quand vous entrez dans le cercle fermé de Christ, vous connaîtrez, vous le connaîtrez parce que vous vivrez dans son intimité. La femme samaritaine est arrivée au puits de Jacob. Le Seigneur lui demande de l'eau. Et puis, elle dit au Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob? Le Seigneur lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? Quand on n'est pas dans l'intimité de Christ, on ne peut pas véritablement le connaître. Le connaître comme le Dieu qui a le pouvoir de calmer les vents et les tempêtes. Le connaître comme le Dieu qui a le pouvoir de faire marcher les paralytiques. Le connaître comme le Dieu à qui tout est soumis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est de rentrer dans son intimité. Quand tu es rentré dans l'intimité de Dieu, tu commences à le connaître, tu ne vas plus trembler ou paniquer face aux événements ou aux situations de quelque nature que ce soit, parce que tu sais que le maître du bateau est dans le bateau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi nous paniquons si souvent? Parce que la plupart du temps, nous n'avons pas encore réalisé la grandeur et la puissance de Dieu. Nous n'avons pas encore. C'est pourquoi il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau, non, ce n'est pas, c'est toi-même qui vas lui demander de l'eau. Et il va te donner non pas de l'eau ordinaire, il va te donner de l'eau vive. Et la femme de dire, Seigneur, mais tu n'as pas de vase. Seigneur, tu n'as pas une corde, le puits est profond. Comment peux-tu puiser de l'eau? Est-ce que le Seigneur a besoin de puits? Est-ce que le Seigneur a besoin de cordes? Il suffit d'un mot pour que la source jaillisse. Et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, entre dans l'intimité de Christ, entre dans les cercles fermés, cherche cette intimité, tu comprendras qui est Jésus. Et quand les vents viennent, alléluia, quand la tempête souffle, tu tiens bon, parce que tu sais que le Seigneur est dans la barque. Oh. Alors je disais donc que le Seigneur nous adresse une invitation à entrer dans le cercle fermé, le cercle restreint de ses disciples. Quand nous lisons la Bible, on peut vraiment affirmer que Pierre, Jacques et Jean constituaient le cercle fermé, le cercle restreint des disciples de Jésus, n'est-ce pas? Quand la jeune fille, la fille de Jaïrus, est morte, n'est-ce pas? Qui est-ce que le Seigneur a emmené dans la chambre où gisait la jeune fille? Il a pris Jacques, il a pris Pierre, il a pris Jean. Il a fait sortir tout le monde. Oh, j'aimerais. Vous savez, mes frères et sœurs, quel est votre sentiment si au milieu d'une foule, on vous dit, vous, venez avec moi. Imaginons que le roi arrive ici ce matin, le roi des Belges, le roi Albert. Alléluia. Et puis il vient, il se tient ici. Moi, je suis assis là. Il dit, je vais prendre 5-6 personnes parce que je veux leur adresser une invitation à dîner au château de Laeken. Les cœurs de chacun de nous va commencer à battre. Il y en a même qui vont arborer les plus beaux sourires que moi-même, je n'ai jamais vus dans cette église. Vrai ou faux? Parce que nous aimerions vraiment qu'on soit parmi ces 5 ou 6-là à qui le privilège sera donné d'aller dîner au château de Laeken. Vrai ou faux? Je crois, franchement, si moi là, si ne me prend pas déjà le pasteur, je vais dire non, c'est fini, je quitte la Belgique. Je parle à quelqu'un?
Imaginez cette joie intense au milieu d'une foule que quelqu'un d'important vous dise, vous là, venez avec moi. Venez avec moi. C'est comme ça qu'il a pris Jacques, Pierre et Jean. Et il est rentré avec eux dans la petite chambre où était couchée la fille de Jaïrus qui était morte. Et là, ils vont être les premiers quand il va dire, jeune fille, Talita Kumi, lève-toi, jeune fille. Et ils vont être les témoins directs de la résurrection de cette petite fille. Les autres attendaient encore. Il y a des gens qui vivront certains événements avant les autres parce qu'ils sont dans le cercle restreint de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un? Oh, il y a d'autres qui vivront les événements différés. Mais d'autres vivront des événements en live parce qu'ils ont été choisis, pris par le Seigneur lui-même. Nous savons que lorsqu'il va dans les jardins de Gethsémané, n'est-ce pas? Pour prier avant d'affronter la croix, il y avait tous les disciples. Et puis là, encore une fois de plus, Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. Et les autres? Et il dit, venez avec moi, l'heure vient où le Fils de l'homme va être livré aux mains des impies. Il faut combattre dans la prière. Allons dans les jardins pour prier. Il les prend eux trois. Je parle à quelqu'un. Vous voyez, plus tard il dira à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Je te confie la responsabilité de conduire mes brebis. Ça veut dire que le Seigneur avait une conscience en Pierre et il savait qu'il avait les capacités de conduire les troupeaux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait confiance en lui. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Dans quelque chose? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi quand il te confie un ministère, que tu vas travailler dans ce ministère activement? Il te dit, conduis ce ministère. Quand tu es quelque part, tu vas croire que c'est le choix du pasteur. Non, c'est le choix de Dieu. Je parle à quelqu'un? Et le Seigneur te dit, conduis ce ministère. Comment tu le fais? Avec négligence? Chacun de nous doit comprendre que Dieu nous a appelés à quelque chose et dans ce dont il nous a appelés, que nous le fassions. C'est pourquoi il dit, faites tout comme pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Cet agent que pendu sur la croix de Golgotha, dans l'agonie, il sait que bientôt il va s'en aller. Et sa mère va rester seule. Il regarde sa mère. Il a confiance en Jean. Et il dit à Jean, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. C'est-à-dire, il confie la responsabilité de la vie matérielle, de la vie tout court de sa maman à Jean. Plus tard, l'évangile nous dit, le disciple que Jésus aimait le plus. Mes frères et sœurs, vous voyez, ces trois-là, Jean, Jacques et Pierre, étaient véritablement le cercle fermé, le cercle le plus restreint des disciples de Jésus. Quand Marie Magdala est venue le matin, alors qu'elle était partie le matin pour embaumer le corps du Seigneur après le Shabbat, elle trouve que le tombeau est vide. Alléluia! Combien y avait-il de disciples? Il y en avait 12 au moins, il y en avait plus. Mais vers qui elle va courir en premier pour annoncer la nouvelle que le tombeau est vide? Vers Jacques, vers Pierre et Jean. Il va leur dire, le tombeau est vide. Vous voyez, même cette femme aussi avait compris que quand le Seigneur lui-même faisait le tri parmi ses disciples, c'est d'abord vers ceux-là qu'il s'orientait. Et cette femme court vers Jacques, vers Pierre, vers Jean pour leur dire, le tombeau est vide. Pierre qui dit, le tombeau est vide. Allons, Jean, nous allons vérifier cela. Et Pierre se met à courir. Et Jean se met à courir. Mais comme Jean était un peu plus jeune, il courait beaucoup plus vite. Il est arrivé le premier, mais il n'est pas rentré dans les sépulcres. Et où étaient les autres? Mes frères et sœurs, on peut être dans une église, 40, 100, 200, 300. Mais sur combien d'hommes et de femmes, véritablement, le Seigneur peut-il compter? Lesquels peuvent dire, je fais partie du cercle restreint de la gloire de Dieu? Dans les textes que nous venons de lire, c'est encore Pierre, Jacques et Jean que le Seigneur prend. Alléluia! et vint avec eux au sommet d'une haute montagne où ils sont témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Oh, la Bible nous dit que là, tout de suite, devant eux, oh, le Seigneur a commencé à se transfigurer, à se transformer. Son visage est devenu blanc comme la lumière. Ses vêtements sont devenus blancs comme le foulon. Oh, là, ils étaient en live, en direct, la manifestation de la gloire de Dieu, ces trois-là. Pendant ce temps, au pied de la montagne, il y avait un type qui avait emmené son enfant vers les autres disciples qui étaient restés dans la foule. Je sais que vous êtes des disciples du Seigneur. Je sais que vous êtes de Jésus. Voici mon fils qui tombe dans l'eau. Voici mon fils qui tombe dans le feu. Oh, je sais que vous pouvez faire quelque chose pour vous. Et ils disent oui, donnez-le. Au nom de Jésus, il prie, rien. Pendant que eux échouaient face à la puissance de Satan, trois du cercle restreint étaient témoins de la manifestation de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pourquoi si souvent le Seigneur les choisissait-il, ces trois-là? Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, c'est d'abord à cause de la qualité et de la nature de leur relation avec le Seigneur. De la qualité de leur relation avec le Seigneur. On peut être disciple de Jésus-Christ et avoir une relation superficielle avec Jésus. Dites Amen. On peut être disciple de Jésus. On peut venir à l'église et avoir une relation sporadique avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire sporadique? C'est-à-dire de temps en temps. Aujourd'hui, je viens. Demain, je ne viens pas. Le dimanche prochain, je suis là. Le dimanche d'après, je ne suis pas là. Comme je le disais à la veillée. Oh, pasteur, j'ai reçu des invités qui sont venus de France. C'est pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Les invités qui sont venus de France, il y a deux choses à faire. Vous leur dites, le dimanche, je vais à l'église, si vous voulez venir avec moi. Vrai ou faux? Ou alors, vous leur montrez le frigo, vous leur montrez les congélateurs, vous leur montrez où se trouvent le sucre, le café, le beurre, et ils feront leur propre petit déjeuner. Pourquoi vous allez rester simplement parce que vous avez reçu des invités qui sont venus? Ça, c'est une relation sporadique avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Venez avec eux. Peut-être qu'en venant avec eux ici à l'église, ils entendront la parole qui va changer leur vie. Ils entendront la parole qui va les toucher et qui vont pousser certains à donner leur vie à Jésus-Christ. Le jour où tu seras au ciel, ce sera une couronne sur ta tête et ces gens comprendront que leur passage en Belgique, dans ta maison, dans ton église, aura été un tournant décisif dans l'histoire de leur vie. Alors, il y a des gens qui vous diront, pasteur, j'ai eu des invités. Emmène-le à l'église. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une relation, qui ont une relation superficielle, qui ont une relation sporadique, qui ont aussi une relation légère. Bongo, bongo, légère. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Une relation basée uniquement sur l'intérêt, une relation égoïste. Seigneur, donne-moi. Quand ils vous viennent à l'église, c'est quand ils ont un problème. Quand le Seigneur les bénit, bye bye, Seigneur, merci. En tout cas, tu es gentil, mais je reviendrai quand j'aurai un autre besoin. Dieu n'a que faire de ce genre de chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce que Dieu cherche, c'est deux hommes et deux femmes qui entretiennent avec lui une relation profonde, une relation stable, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait la tempête ou quoi que ce soit, je suis là, j'aime la présence du Seigneur, je cours dans la maison de Dieu, je cherche sa face. Ce dont Dieu a besoin, c'est des hommes et des femmes qui entretiennent avec lui une relation constante, une relation permanente, une relation qui les pousse tout le temps à rechercher la face de Dieu, comme un jeune homme qui aimerait être dans la présence de sa fiancée ou vice-versa. Et parle à quelqu'un. Mon frère, s'il te plaît, Dieu voudrait que tu montes un peu de niveau. Ne sois pas ce chrétien qui vient à l'église qui est pour Seigneur bénis-moi. Je prie tous les jours en disant Seigneur, je voudrais être comme l'apôtre Paul qui dit, qui me séparera de l'amour de Dieu. Je peux marcher pieds nus, j'aimerai le Seigneur. La tempête pourra souffler. Ni la faim, ni la nudité, ni les angoisses. Pourquoi? Parce que je sais que ma vie ne dépend pas simplement de cette vie que je mène sur la terre, mais qu'un jour, alléluia, Quand je serai dans la présence de mon Dieu, dans les cieux, dans la gloire et la félicité, je serai revêtu d'or. Je marcherai sur de l'or. J'aurai une maison tout en or. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi, comme disait l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que les, que même les mpiakales, comment on dit ça en français, frère Alpha, aidez-moi un mpiaka, comment on dit? Les crises du temps présent, alléluia, ne sauraient être comparées à la gloire. Et quand je pense à la gloire qui m'attend, alléluia, alors ma relation avec Jésus n'est plus qu'une relation basée sur l'intérêt. Encore que oui, il est le Dieu qui te bénira quand tu seras dans sa proximité. Mais quand tu as appris à chercher premièrement le royaume des cieux, la présence de Dieu, à rentrer dans l'intimité de Jésus-Christ pour comprendre qui est le don de Dieu et la personne que je te prêche, tu vas lui demander non pas des choses simples, tu pourras lui demander même des choses extraordinaires, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme, il te les donnera parce que tu l'aimes. Oh, je sais que c'est un message très difficile. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un ce matin? C'est la nature de cette relation. Vous voyez, quand ils sont sur la montagne, Jésus descend avec eux et leur dit, la vision que vous venez de vivre, ne la dites à personne. Alléluia. Et ils ont gardé le secret. Vous savez qu'il y a très peu de gens capables de garder un secret. Quand vous confiez un secret à quelqu'un, ça veut dire que vous avez confiance dans ce quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il dit, ne dites à personne ce que vous venez de vivre au verset 9e. Mes frères et sœurs, est-ce que le Seigneur peut te faire confiance? Je parle à quelqu'un. Peut te faire confiance. Quand tu te retrouves là, seul, à l'étranger, loin de ton épouse et ton mari. Quand tu es là, seul, dans un coin où on ne te connaît pas. Et que l'on te propose certaines choses. Mais non, c'est... J'aimerais qu'un jour Dieu dise, as-tu remarqué mon serviteur Job? Quel témoignage! Le Seigneur peut-il te faire confiance? C'était une relation basée sur la confiance. On ne peut pas confier sa mère à un irresponsable. Alléluia! On ne peut pas confier, au moment où tu es en train de mourir, quand tu confies tes parents, ton père ou ta mère à quelqu'un, en lui disant, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus la maman du Seigneur, mais ta maman. Fils, voici ta mère. Il faut que la personne à qui tu donnes cette responsabilité ait le sens de la responsabilité. Et que cette personne soit digne de ta confiance. Jésus n'est pas allé vers Judas pour lui dire, Judas. Jésus n'est pas allé vers plusieurs pour dire, s'il vous plaît, prenez soin de ma mère. Il en a choisi juste un pour lui dire, fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce jour-là, Jean a fait quoi? A recueilli la mère de Jésus dans sa maison. Une relation de confiance absolue, totale. Le choix de Jésus sur les 12, le choix de Jésus sur les 3 n'était pas lié à des critères sentimentaux, épidermiques, liés à la race, à la culture, à la langue. Non, 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 c'est pas ce genre de choses. Vous savez, même, comme je disais à la veille, même aujourd'hui dans nos églises, on est devenu raciste. On est devenu tribaliste. Ah, on est devenu, moi je suis angolais, moi je suis rwandais, et on est dans le groupe des rwandais. Moi je suis congolais, on n'est que dans le groupe des congolais. Moi je suis ceci, moi je suis cela. Jésus est venu briser ces barrières. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni angolais, ni congolais, ni burundais, ni rwandais. Nous devenons une seule famille, la famille des enfants de Dieu. Alors, quand il est question de choisir, je ne choisirai pas parce que tu es de mon village. Non, 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 le Seigneur ne m'a pas appris ça. On ne choisira pas parce qu'il parlait les mêmes dialectes que nous. On ne choisira pas en fonction de ces critères-là. On choisira en fonction d'un seul critère, l'amour que la personne et le zèle que la personne a vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans nos églises, on est devenu raciste. J'étais aux États-Unis il y a quelques années encore. Même dans l'église de Dieu, les noirs étaient d'un côté dans la même salle de culte, les blancs de l'autre côté, on ne pouvait même pas se mélanger. Ce n'est pas au temps de la sécession, ce n'est pas au temps de l'apartheid, il y a une dizaine d'années à peine. Les seigneurs les avaient choisis pour les faire entrer dans le cercle le plus restreint. Je parle à quelqu'un. À cause en raison de la qualité de la relation qu'ils entretenaient avec le Seigneur. Quelle est ta relation avec Dieu? Une relation qui consiste à venir simplement quand tout va mal. Une relation qui consiste de temps en temps quand il fait beau, quand tu te sens un peu bien, il suffit d'un petit bobo pour que tu dises non, aujourd'hui non, je reste chez moi à la maison. Même des rois comme le roi David disait, assis sur mon trône, quand on me dit allons dans la maison de Dieu, je descends de mon trône et je cours dans la maison de l'Éternel. Cherche Dieu, améliorons notre relation avec le Seigneur. Comment? En cherchant sa face. Passe du temps dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cherche Dieu par le moyen de la prière. Ne passe pas une journée, frère, s'il te plaît, sans avoir pris même 5 minutes, 10 minutes pour te mettre à genoux et crier ta détresse à Dieu. Et crier tes problèmes à Dieu. Je vous parlerai du mot crier. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos problèmes qui ne seront jamais résolus. Parce que simplement nous prions. Mais la Bible va beaucoup plus loin, il faut crier. Je vous enseignerai, c'est une nuance fondamentale. Cherche à améliorer cette relation. Si tu as un ami que tu ne vois qu'une fois par mois, je crois que votre relation sera un peu... Mais si vous vous téléphonez tout le temps, si vous vous voyez régulièrement, n'est-ce pas? Si vous avez des centres d'intérêt communs, si vous avez des sujets de conversation communs, si vous vous retrouvez dans une vision commune, vous allez voir que votre relation va se solidifier. C'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, quand tu passes ton temps à étudier les Écritures, alléluia, quand tu passes ton temps à écouter des messages, pendant cette semaine, une personne qui m'avait demandé, le frère lui m'avait fait la liste de tous nos messages de l'année 2008. Il me dit, je voudrais avoir chaque message, pasteur, le plus rapidement possible, si je peux avoir tout ce paquet. Je n'ai eu que deux de vos messages, pasteur, et puis je ne vous connaissais pas. Envoyez-moi tous les messages de votre église. J'ai dit, mais chez nous déjà, dans notre propre église, mais je n'aime pas le proverbe qui dit, nul n'est prophète chez lui. Moi, je suis prophète chez moi. Je parle à quelqu'un? C'est biblique? Eh oui. Améliorons la qualité de notre relation. C'est comme ça que le Seigneur, au milieu d'une foule, il vient un matin, il dit, je veux bénir 5 ici. Alléluia! Alors tout le monde commence à lever la tête. Il ne te choisira pas parce que tu lèves très haut la tête. Il ne te choisira pas parce que tu bombes bien le torse. Oh, vous connaissez les fils d'Isaïe. Chacun venait avec une démarche de militaire. Devant le prophète Samuel, le prophète Samuel aurait dit, non, ce n'est pas toi que Dieu a choisi pour devenir roi d'Israël. Tout le monde vient là avec une certaine position, etc., etc. Non, je parle à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les jeunes bergers passent, l'Esprit de Dieu lui dit, tu vois, c'est ce jeune homme-là. Nous choisissons selon des critères qui frappent le regard. Dieu choisit selon les critères du cœur. Améliorons notre relation pour entrer dans le cercle restreint. Alléluia! C'est que Dieu cherche, c'est les gens d'hommes et de femmes qui cherchent constamment sa face, qui entrent dans son intimité, qui étudient sa parole, qui aiment entendre sa parole, qui aiment marcher dans la crainte de son nom, qui aiment le servir quand ils sont là. Quand on demande quelque chose, il y a disponibilité, ces gens se disponibilisent. Oh, même si c'est au loin, Seigneur, je suis là, envoie-moi. Oh Dieu, que puis-je faire en ces lieux? Que puis-je faire dans cette église? J'aime ton royaume, je t'aime Seigneur, je ne peux pas rester inactif, Seigneur je veux faire quelque chose, Seigneur je veux me rapprocher de toi, non pas au loin mais je veux venir comme la femme atteinte de perte de sang, venir pas au loin, non, moi c'est dans ta présence, c'est dans ton intimité pour te toucher parce que je veux te toucher. Ça c'est les gens d'hommes et de femmes que le Seigneur va prendre pour les mettre dans le cercle restreint de ses disciples. Je parle à quelqu'un. Et quand il te met dans son cercle restreint, quand il y a un problème là, comme dans la maison de Jaïrus, il dit toi, toi, toi. Les autres là, ils le regardent, ils disent, c'est toujours eux. Vous croyez que les disciples ne murmuraient pas entre eux? Si! Si!
Bien que marchant aux côtés de Jésus, il s'est chamaillé, n'est-ce pas?
Il s'est chamaillé. Il s'est disputé le poste. Une maman est venue, « Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, fais que mon fils, mes deux là, un à ta gauche, l'autre à ta droite. » Les autres ont dit, « Mais comment, madame? Nous aussi on est là, et nous on aura quelle place? » Voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais quand Dieu veut t'élever à un poste, tu n'as même pas à faire la demande, il te verra. Quand tu es dans son cercle, il te choisira. Je parle à quelqu'un, c'est la nature et la qualité de ta relation qui fera que le choix de Dieu se porte sur toi. Ce n'est pas quand tu fais le jeu des coudes, bousculer les gens. Non. Tu vas échouer.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier groupe de trois qui est au sommet de la montagne avec Jésus. Alors que le second groupe, le groupe le plus important, est au pied de la montagne avec la foule. Vous voyez la différence? Trois étaient avec Jésus. Un plus grand nombre était avec qui?
Avec la foule. Vous pouvez être majoritaire. Croyez-moi, ce n'est pas la majorité qui donne d'avoir la victoire sur les puissances des ténèbres. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas la majorité. Mais quand vous êtes deux, quand vous êtes même un, mais avec Jésus, c'est ça qui vous donnera toujours la victoire sur les puissances des ténèbres. Vous pouvez être toute une tribu, nous allons taper les démons. Ils se moquent de vous. Mais quand un seul qui est avec Jésus se lève, je parle à quelqu'un, un seul qui est avec Jésus se lève. Vous savez, au Nigeria, j'avais un ami nigérien qui me racontait une histoire. Il y a certains villages, les gens peuvent disparaître comme ça. Il y a des jours, on dit, tout le monde reste chez lui. Parce que parfois, il y avait des processions des grands sorciers du village qui se faisaient. Mais là, tout le monde restait terré chez lui. Alors, il me racontait l'histoire d'un frère qui avait oublié ces jours-là et qui revenait, qui était face à face avec la procession. Diabolique. Tout le monde regardait et disait, c'est terminé. Et il est venu, il est arrivé devant ces gens. Au nom de Jésus, tous sont tombés.
Seuls.
Ce frère, il est maintenant en Angleterre, le pasteur Emmanuel Wanki. Il me dit, pasteur, au Nigeria, il y a des endroits où tu n'arrives pas. Hein? Tu n'as pas Jésus, tu ne mets pas tes pieds. Tu peux disparaître comme à jamais.
Je parle à quelqu'un. Mais quand tu es avec le Seigneur, je parle à quelqu'un. Tu n'as peur de rien. Vous voyez, le premier groupe était au sommet de la montagne. Avec Jésus. Le second groupe était au pied de la montagne avec la foule.
Je voudrais te poser la question. Toi, tu es dans quel groupe? Tu es dans quel groupe?
Dans les groupes qui est au sommet de la montagne avec le Seigneur ou dans les groupes qui est avec la foule au pied de la montagne? La Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, il les conduisit à l'écart. Dis à ton voisin, à l'écart. Ils étaient tous dans la foule, mais le Seigneur est venu. Il dit, non, vous trois là, je vais vous conduire à l'écart sur une haute montagne. Mon frère, ma sœur, tu veux vivre des choses extraordinaires dans ta vie avec le Seigneur? Apprends à sortir de la foule. Dites amen. Apprends à sortir du monde. Apprends à sortir de la manière, de la vaine manière de vivre du monde. Apprends à sortir de la vaine manière de s'habiller des gens de ce monde. Apprends à sortir de la vaine manière de vivre, de la vaine manière d'agir, de la vaine manière de parler, de réfléchir des gens de ce monde. Il faut que tu te mettes à l'écart, même si tout le monde danse du pied gauche, la majorité danse du pied gauche, mais tu sais qu'ils sont dans la foule sans Jésus. Je veux jouer du pied droit, qu'est-il, si, même si je serai seul, mais sachant que je serai avec le Seigneur. À l'écart. Quand les gens sont en train de raconter des commérages, sois à l'écart des commérages. Quand les gens sont dans les songhi-songhi, sois à l'écart des songhi-songhi. Quand les gens sont dans les vols, sois à l'écart de ces choses-là. Même si, parfois
on a l'impression qu'ils ont des avantages. J'ai vu, quand il y avait les histoires de Ngouma en Afrique, au Congo. J'étais déjà dans une grande église. Je n'étais pas encore pasteur, on m'appelait frère Robert, mais en fait j'étais le berger d'une grande église. Et je disais, mon épouse est là, je disais aux gens, c'est une arnaque. N'allez pas mettre votre argent là-bas.
Mais comment voulez-vous? Vous savez, il y a des gens. Il dit, oui, le pasteur a raison. Le pasteur a raison. Et puis, les jours d'après, quelqu'un vient lui dire, tu sais, moi, j'ai eu un congélateur. Il dit, est-ce que le pasteur vraiment a raison? Est-ce que le pasteur a raison? Et moi, je venais et je leur disais ces choses-là. Quelqu'un vient, moi, j'ai eu télévision couleur. Au bout d'un temps, celui-là dit, notre pasteur là, ce type ici, hein, il risque de nous conduire dans la pauvreté. Moi aussi, Ngoma.
Alors, quand ça s'est coupé net, il fallait voir l'atmosphère à l'église. Vous chantez, quelqu'un, il est là, il chante, mais vraiment. Il est en train de voir tout ce qu'il a perdu.
Je parle à quelqu'un.
Mes frères et sœurs, le Seigneur les a conduits où? À l'écart. Soit à l'écart de certaines choses qui concernent le monde. Si tu veux être avec Jésus, tu ne peux pas en même temps être avec le Seigneur et en même temps être dans la foule. Il y a un choix à faire. Et quel est ton choix? J'ai fait le choix de sortir de la foule. J'ai fait le choix de sortir du monde. J'ai fait le choix de quitter la vaine manière de vivre héritée de mes pères, de mes tantes, de mes oncles.
Il y a des gens qui vous diront, pourquoi voulez-vous que je demande pardon à mon épouse? J'ai jamais vu mon père demander pardon à maman. Mais moi, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai quitté la vaine manière de vivre héritée de mon père. C'est pas parce que mon père était polygame que je vais être polygame.
En Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Quelqu'un peut dire amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai fait le choix de sortir de la foule pour être avec Jésus. Et oui, pour être avec Jésus. Parce que c'est celui qui est avec Jésus qui voit la gloire de Dieu, qui voit la grandeur de Dieu, qui vit en live un certain nombre d'événements que d'autres ne vivront peut-être qu'à travers l'histoire et les témoignages.
Vous savez, le Seigneur disait souvent à ses disciples, allons à l'écart. Soit pour aller se reposer, soit pour aller prier. Alléluia. C'est pourquoi de temps en temps, même dans ta maison, tu dois apprendre à être à l'écart, dans ta propre maison. Aujourd'hui, vous savez que tu peux être seul chez toi à la maison, mais tu es au milieu de la foule.
La foule de quoi?
Télévision. Il y en a même qui en ont peut-être deux ou trois, et il allume les deux ou trois dans des chaînes différentes pour regarder comme ça.
Peut-être que j'exagère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est au milieu de la foule. Et le temps de la prière est là, mais il ne peut pas comprendre qu'il doit éteindre le téléviseur pour être à l'écart.
Je parle à quelqu'un?
Le Seigneur, de temps en temps, il leur disait, allons à l'écart. Soit pour aller prier. Dites amen. Soit pour aller se reposer un peu. Ou encore, pour aller leur donner la signification des paraboles qu'il donnait aux gens. Quand Jésus parlait aux foules, il parlait à travers des paraboles. Les gens ne comprenaient pas. Mais il disait après à ses disciples, venez à l'écart. Et quand ils étaient avec lui à l'écart, alors le Seigneur commençait à leur donner la signification de ces paraboles. Tant que tu resteras dans la foule, il y a des choses qui paraîtront folies pour toi. Mais quand tu cherches l'intimité et la présence de Dieu, tu vas voir même un passage biblique trop compliqué. L'Esprit de Dieu commence à te parler. L'Esprit de Dieu commence à te donner la révélation de la pensée de Dieu. Parce que tu t'es mis à l'écart face à ce texte de la parole de Dieu pour méditer. L'Esprit te dit, oui, tu es sorti de la foule. Tu es sorti de l'agitation quotidienne. Tu es sorti de toutes ces choses. Tu as choisi la bonne part. Tu t'es assise aux pieds de Jésus. Maintenant, moi, le Saint-Esprit, je te donne la révélation de ce que tu es en train de chercher.
C'est quand on va à l'écart. Alléluia. Soit à l'écart de tous ces gens-là qui se comportent vraiment comme si Dieu n'existait pas.
Même de tes amis qui disent, oui, on ira boire toute la nuit, danser toute la nuit. Soit à l'écart. Pourquoi tu te comporterais comme si tu ne connaissais pas Dieu?
Je parle à quelqu'un?
Soit à l'écart de ces choses-là, de ceux qui viendront te dire, oh, je connais un tuyau. Oh, avec si on fait ça, mon frère, mon ami. Et on va gagner beaucoup d'argent. Soit l'écart. Soit l'écart. Préfère la présence de Jésus. Tant que tu es ici, hein, c'est difficile que tu pêches au moment où tu es là.
Vrai ou faux?
C'est vrai. Sors d'ici et c'est fini. Tu es comme la proie de l'ennemi. Sois à l'écart.
Est-ce que tu acceptes d'aller à l'écart?
à l'écart des choses de ce monde. Alléluia! À l'écart de la manière d'agir et de vivre. Comment la manière d'agir et de vivre parfois des gens du monde? Il t'a fait du mal, toi aussi tu dois lui faire du mal. Laisse, le Seigneur a dit à moi la vengeance. Laisse-le, laisse tout entre les mains de Dieu. Je parle à quelqu'un. Laisse entre les mains de Dieu. Quand Dieu se levera pour te justifier, tes ennemis deviendront pour toi ton marchepied. N'agis pas comme les gens du monde. Ne parle pas comme les gens du monde. Ne t'habille pas comme les gens du monde. Habille-toi d'une manière décente. Parle de telle manière que tu communiques un peu de grâce à ceux qui t'écoutent. Parle de telle manière que quelqu'un qui était venu même avec un grand problème, quand il t'entend parler, oh, il est consolé, il est soulagé, il reprend vie. Le Seigneur m'a donné une langue exercée, dit Esaïe, pour consoler, fortifier ceux qui passent par l'affliction. En tant qu'enfant de Dieu, laisse-moi te dire, quelqu'un qui a entendu la parole et la parole et la parole, Dieu ne t'a pas permis d'entendre toutes ces paroles uniquement pour toi-même, mais c'est aussi pour exercer ta langue. Quand tu seras face à quelqu'un, un message que tu auras entendu il y a peut-être deux ans te revient à l'esprit. Tu partages avec la personne, cette personne te tient dans ses bras, pleure et dit, tu m'as fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? La Bible dit que la parole de Dieu habite pleinement dans nos cœurs. Vous voyez, c'est ça qui a fait, le premier élément qui a fait la différence entre ces deux groupes, c'est ça. C'est la présence de Jésus dans un groupe et l'absence de Jésus dans l'autre groupe. Alléluia. Le deuxième élément qui a fait la différence entre les deux groupes, nous l'avons déjà dit. Le premier groupe était au sommet de la montagne. Le deuxième groupe était au pied de la montagne. Mon frère, ma soeur, actuellement, au moment où ce message est prêché, spirituellement, où es-tu? Au sommet de la montagne ou bien au pied de la montagne? Amen. Il faut monter au sommet de la montagne. Il faut monter. Où est-ce que Moïse a reçu les tables de la loi? Au pied de la montagne? Il est monté sur le mont Horeb. Où est-ce qu'Abraham a reçu la révélation que Dieu est Jéhovah Jireh? Au pied de la montagne? Il est monté. Vrai ou faux? Est-ce que je parle à quelqu'un? Monte au sommet de la montagne. Vous savez, dans la Bible, le sommet d'une haute montagne a souvent été assimilé à la demeure de Dieu. Je peux vous donner des centaines de textes comme ça, mais on n'a pas le temps. Le sommet d'une haute montagne a toujours été assimilé au lieu où Dieu demeure, la sainte montagne, la montagne de Sion. Il faut monter à la montagne de Sion, à la montagne sainte, le lieu où Dieu demeure, le lieu de la présence de Dieu, le lieu où Dieu se révèle dans sa gloire. Ne sois pas un chrétien qui a juste accepté Jésus et quand le Seigneur dit « montons la montagne », il dit « non Seigneur, moi je préfère t'attendre ici au bas ». Le frère de Moïse est attendu au bas avec la foule. Ils l'ont influencé en lui disant « nous ne savons plus ce que ton frère est devenu. Fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu. Et nous allons dire « oh Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Quand tu es au bas de la montagne, le monde peut t'influencer. Vous savez, ne dis jamais que moi, on ne peut pas m'influencer. C'est faux. Tu seras plus facilement d'ailleurs influencé par le mal, par le monde, que par la parole de Dieu. Parce que notre nature, c'est une tendance vers le mal. Alors fais attention. Évite le milieu où tu sais que tu peux être influencé. Vous croyez qu'Aaron n'aimait pas Dieu? Il aimait le Seigneur. Mais la pression. Non, ton frère, on ne sait pas où il est, ce qu'il est devenu. Nous, on a besoin d'un Dieu. Nous, on a besoin d'un Dieu. Oh, le pauvre Aaron. Si j'étais à sa place, j'aurais dit, mais faites-vous votre Dieu. Pourquoi vous mettez la charge sur moi? On dit, et puis ils lui disent, Aaron, ce n'est pas grave. Nos femmes sont prêtes à donner tous les bijoux. Pour faire le mal, il y a parfois des gens qui sont prêts à donner des millions. Mais pour faire le bien, il calcule, je ne comprends pas ça. Vous savez que les femmes aiment les bijoux. Hein? C'est pourquoi de temps en temps, les hommes achètent un beau bijou. Hein? Quand c'est possible. Femme, il ne faut pas mettre la pression non plus sur l'homme. Bijoux. Toute la vie ne se résume pas qu'à travers les bijoux. Dites Amen.
quand c'est possible, on va t'en offrir. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux utiliser les mayakala, les histoires de chez nous là. C'est bien. Tu peux utiliser les fantaisies. Tu peux utiliser les garanties. Vous voyez, même votre pasteur connaît tout ça. Alléluia. Plutôt que de mettre toujours la pression 24 carats, 48 carats, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce qui est plus important encore pour toi, femme, c'est la parure intérieure. Un cœur bon. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes d'une méchanceté. C'est pourquoi, chez moi au village, on dit, mieux vaut être ensorcelé par un sorcier que par une sorcière. Et c'est vrai. Au village, on disait, quand c'est une sorcière, une femme. Ah. Mais quand c'est un homme, il peut changer. Ah, petit, va. Mais quand c'est une femme, il y a des femmes d'une grande méchanceté. Au lieu de chercher seulement la parure extérieure, cherche aussi la parure intérieure. Je parle à quelqu'un. Montons, montons, montons sur la montagne. Mais à propos de cette montagne sainte, la montagne des Sion, il y a une question fondamentale qui est posée dans la Bible. Qui montera à la montagne sainte? Regardez avec moi dans les livres de Psaume. Psaume 24. Psaume 24. Vous avez trouvé? Verset 1er. Nous lirons jusqu'au verset 3e. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'il renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3e. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Mes frères, écoutez-moi bien. Voyez, le deuxième élément qui a fait la différence entre le premier et le deuxième groupe, c'est qu'un groupe est monté avec Jésus au sommet de la montagne, qui est l'image de la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu dit, qui montera? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? Regardez encore avec moi, toujours dans les livres des Psaumes, 15e chapitre. Psaume chapitre 15. Psaume 15, si vous voulez bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Psaume de David. Écoutez, au verset 1er. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Revenons au psaume 24. Voyez. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Là où la gloire de Dieu se manifeste. Qui pourra séjourner dans la tente qu'il y a sur la montagne de Sion? Écoutez ce que la Bible dit au psaume 24. Nous allons lire à partir du verset 3e. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? À partir du verset 4, c'est lui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Les mains innocentes. Si tu as les mains innocentes, tu pourras monter à la montagne de l'Éternel. Il y a des gens qui ont les mains pleines de sang. Tu parles à quelqu'un? Les mains pleines de sang. Les mains qui touchent à des choses impures. Tu peux brasser des millions. Si ces millions-là ne sont pas véritablement de quelque chose de bien, tes mains sont sales. Je parle à quelqu'un? Combien de gens ont des mains sales? Même l'argent qu'ils ont là, ça salit, ça a souillé leurs mains. C'est lui qui montera à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs. Les cœurs purs, purifions nos cœurs. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et il donne une autre réponse. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Vous savez qu'il y a des champions des mensonges, toutes catégories. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, des chrétiens menteurs, menteurs, c'est pas possible. Crois-moi, tu peux mentir comme tu veux. D'ailleurs, que celui qui ment continue à mentir.
Mais quand ce sera le moment de monter à la montagne de l'Éternel, le Seigneur te dira, pas toi. Mais toi, viens. L'autre vient et toi, tu es resté. Pourquoi? Parce que tu livres ton âme au mensonge. Vous vous imaginez ça? Il dit, c'est lui qui ne livre pas son... Ateka molimo, na lokuta. Dans l'ingala, c'est mieux encore. C'est-à-dire, il a dit au mensonge, je te vends mon âme. Alors le mensonge, ah, mais tu es à moi maintenant. Tous les jours, tu mens. Et quand il te parle, c'est le mensonge. Mais parfois, c'est tellement bien arrangé. Mon épouse me parlait de quelqu'un qui était dans leur quartier. Quand il parlait d'Europe, il décrivait les quartiers, les rues, tout. Il donnait l'impression de quelqu'un qui était venu en Europe, mais n'avait jamais mis les pieds en Europe. Simplement à travers les histoires. Il dit, celui qui n'a pas livré son âme au mensonge. Est-ce que nous pouvons continuer? Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui ne jure pas pour tromper. Mon frère, je t'assure, je te dis la vérité. Vous savez, les Africains, ils peuvent même invoquer le nom de leur papa ou de leur maman. Na kombo ya mama nanga. Ils jurent pour tromper. Je te dis, mon frère, non, je t'assure, demain, là, je vais te rembourser. C'est très bien. Combien de gens ici ont des dettes avec des demain, je vais rembourser. Demain, ça fait 5 ans. La Bible dit, qui pourra monter à la montagne de Dieu? Celui qui n'a pas livré son âme au mensonge. Dites amen. Je sais qu'il y aura moins d'amen maintenant. Alléluia. Celui qui ne jure pas pour tromper. Et au verset 5e, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque Dieu de ceux qui cherchent sa face. Qui montera la montagne de l'Éternel? Revenons au psaume 15e. Ah, moi je veux être dans les cercles restreints. Frère, tu veux être dans les cercles restreints? C'est le cercle de ceux qui montent à la montagne. Et à la montagne, Dieu regarde les mains, Dieu regarde le cœur. Je parle à quelqu'un. 15e chapitre de psaume. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Verset 2e. Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice. Alléluia. Sois intègre. OK? Sois juste. Il ne faut pas toujours prendre le parti de quelqu'un parce que c'est un membre de ta famille. S'il a mal agi, tu lui dis, tu as tort. Sois juste. Sois juste aussi dans ton ménage. Sois intègre. Vis avec ce que tu gagnes. Alléluia. Pas de magouille, là, trop compliqué. Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont injustes déjà dans leur propre ménage. Quand il y a un problème dans sa famille, l'argent peut aller vite. Quand c'est dans la famille de son épouse, il dit, attends, on va d'abord téléphoner pour savoir si c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez ce que je dis là? C'est comme ça qu'il y a moins d'amen. OK. Et dit celui qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3e. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Écoutez ça. Il ne calomnie point. Mon frère, pourquoi tu dois calomnier ton frère? Tu sais qu'il n'a pas fait ça. Tu vas le calomnier, tu vas la calomnier, tu vas répondre de fausseté sur son nom. Et tu crois qu'en venant lever les mains, Seigneur, tu es mon Dieu, tu vas monter à la montagne, tu vas être dans le cercle restreint. Jamais. Parce que tu vis des calomnies. Calomnies. Comment on appelle ça en lingala? Oui, des calomnies. Il ne fait point de mal à son semblable. Vous savez, faire du mal, hein, on peut faire du mal à quelqu'un inconsciemment. Mais il y a des gens qui font mal sciemment.
Je veux lui prouver. Et il complote contre toi. Et il dit du mal de toi partout. Pendant ce temps, toi, tu es dans la prière. Et il dit, c'est lui qui ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Excusez-moi, mes frères et sœurs, je vais aussi les traduire en lingala. Il ne jette pas l'opprobre, il n'humilie pas son prochain. Celui-là peut monter à la montagne sainte. Dites Amen. Il dit, il regarde avec dédain ce qui est méprisable. C'est-à-dire, il y a des choses, quand il regarde, il dit non, ça c'est méprisable. Il regarde avec dédain, il ne s'en approche même pas. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. S'il a dit, j'ai pris l'engagement à la convention de donner 20 euros, il les donnera. Je parle à quelqu'un. Toutes les années, les engagements des conventions sont pris. Il y a des gens, ça fait 3 ans, je vois toujours leur nom. À chaque convention, ils prennent un engagement, ils n'ont jamais payé. Et je me dis, mais mon Dieu, ils n'ont rien compris. Quand tu as pris un engagement, tu ne te rétractes pas. Laissez-moi aller beaucoup plus loin. Même le mariage, c'est un engagement, une alliance. Quand tu as pris cette femme, quand tu as pris cet homme, en disant pour le meilleur comme pour le pire, si tu te rétractes, tu as rompu, tu as brisé l'alliance que tu as contractée avec Dieu lui-même. Je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on divorce comme on veut. Oh non, je n'ai pas belle, j'ai trouvé une autre qui est plus belle. Il fallait attendre de la trouver celle-là. Tu parles à quelqu'un? Oh, incompatibilité d'humeur. Pourtant, un jour ici, tu as dit pour le meilleur et pour le pire. Il ne se rétracte pas, celui qui peut monter à la montagne de Dieu. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Je vais vous expliquer. Les histoires des banques, Lambert, là, attention. Quelqu'un, ton frère est dans les besoins, il vient te demander un peu d'argent, un prêt. Tu lui dis, non, si je te prête, tu me remets avec 20% d'intérêt. Tu n'es pas une banque. Tu n'es pas une banque. Si tu lui prêtes, prête-lui sans intérêt. Encore que toi qui empruntes, ne te rétracte pas non plus pour payer. Pourquoi beaucoup de gens ne donnent plus aux autres des dettes? Parce que les gens en Europe ne remboursent pas. Je suis désolé de le dire. Je suis pasteur, j'entends de partout des gens qui vous disent, pasteur, c'est lui-là, c'est là et tout. Parfois, il a pris juste 2 bottes de pondou, là, les pondou du Congo. Et ça fait 6 mois. Il doit payer 5 euros. Mes frères et sœurs, c'est une honte. Je préfère, si tu n'es pas en mesure de payer, tu viens vers ta sœur ou ton frère, tu lui dis, frère, je veux bien payer, mais pour le moment, je t'assure, je n'ai pas. Mais je n'ai pas oublié. Ce n'est pas les gens, tu viens à l'église et tu regardes d'abord, où est le frère, ma bébé est assise, où? Parce que tu as pris le pondou de ma bébé. Quand ma bébé est devant, tu te mets là derrière, comme ça, dès que le culte termine, tu prends ton sac. Quand tu la vois venir d'un coin, toi tu changes de côté, de trottoir. C'est pas chrétien. Mais laissez-moi vous dire les choses, mes bien-aimés frères et sœurs. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui ne prête pas avec intérêt. Mais ça veut dire aussi celui qui rembourse ses dettes. Il n'accepte point de don contre l'innocent. C'est-à-dire quelqu'un vient te corrompre. Il te corrompt pour que tu ailles mentir. Tu vois? Ce type-là, j'ai besoin d'un témoignage. Toi, tu es pire à moi. Ma soeur, pire à moi. Prends. Et puis tu viens contre un innocent. Et moi aussi, j'étais le jour où il disait ça. Moi aussi, j'étais là. Ma soeur, tu nies. Et parfois, il achète ça. La personne responsable maintenant se tient à l'écart. L'autre là, à qui on a donné un petit don, juste un petit rien qui va passer. Il achète le problème à son but. Et il te dit, j'étais là. Tu as oublié.
Et puis le dimanche, il vient à l'église. Oh, pasteur, bonjour.
Oh Seigneur, tu es bon, alléluia. Je vais entrer dans les cercles fermés, monter la montagne.
Tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui qui se conduit ainsi ne chancelle pas. Celui-là, il monte à la montagne de l'Éternel. Celui-là, il sera témoin direct de la gloire de Dieu. C'est à celui-là que Dieu donnera la révélation de quelque aspect de sa personne. C'est à celui-là que Dieu remettra entre les mains propres quelques bénédictions particulières. Parce que celui-là marche selon Dieu. Vous comprendrez pourquoi Jésus ne pouvait pas prendre tout le monde et monter avec lui à la montagne. Il savait ce qu'il faisait. Si nous voulons rentrer dans les cercles fermés de Jésus, nous devons, un, sortir de la foule. Dites Amen. Deux, approfondir notre relation, l'améliorer, notre relation avec le Seigneur. Et trois, commencer à monter sur la montagne parce que nous avons compris ce que la parole de Dieu nous dit pour ceux qui veulent monter sur la montagne. Qu'au bon hôtel dans la prière. Qu'au bon hôtel dans la prière.